Isabelle Alonso, fille de républicain, vous êtes devenue française à l'âge de 8 ans par naturalisation. Vous avez publié une série d'essais dont « Et encore, je me retiens » en 1995 pour les Suisses, que vous avez adapté pour le théâtre. Vous êtes romancière, vous avez déjà exploré passablement l'histoire familiale avec notamment « L'exil et mon pays » paru en 2006, « Fille de rouge » en 2009 et « Maman » en 2010. Vous publiez chez Héloïse d'Ormesson un très beau roman, « Je mourrai une autre fois ». Alors, l'histoire familiale est visiblement une source d'inspiration importante dans votre travail d'écriture. Est-ce que c'est la Rojas qui a besoin de s'exprimer ? Elle ressort de temps en temps comme ça ? La rouge.
Oui, oui, bien sûr, évidemment.
J'ai pas l'accent, enfin, hein, je suis désolé.
Si, c'était pas mal. C'était pas mal, mais il y a une jouissance un peu perverse pour un Espagnol à faire prononcer à un Français un mot où il y a à la fois un R et un J. Parce que ça, pour un palais français, c'est mission impossible. Devant,
Rojas.
Alors, naranja, par exemple, pour un Français, c'est un cauchemar. Alors que c'est juste une orange, quoi. Demander un jus d'orange, les Français finissent par demander un jus de citron, n'importe quoi, mais bon, c'est plus prudent. Et donc, voilà, donc Roja, oui, alors les Rojos, c'est un nom que les Rouges n'ont pas choisi. C'est le nom choisi par les franquistes pour définir tout ce qui n'était pas comme eux. Donc, du socialiste au communiste, à l'anarchiste, au socialiste, au simple démocrate, ou à la personne qui voulait juste un système un peu moins pourri que ce qu'il y avait avant, tout ça, c'est des Rojos. Alors oui, Roja, alors il faut l'assumer, y a mucha honra.
C'est plus que l'assumer, vous le revendiquez
d'une
certaine manière.
Et comment ? Je suis tellement... On ne peut pas être fier de ses origines, c'est idiot parce qu'on n'y est pour rien, mais en tout cas, on peut en être très content, et c'est mon cas. Je suis très contente d'être la fille de ces gens-là.
Je mourrai une autre fois est un roman qui est presque un récit par procuration. Il raconte l'histoire d'Angel. Alors, de nouveau, vous me pardonnerez la prononciation.
Deuxième piège, Angel.
Angel Alcalá Llach.
Bravo.
Et catalan.
Ah non, parce que là, ce n'est pas facile non plus.
Voilà. Ouais. Dit Jelin, c'est ça ? Bien prononcé ?
Jelin.
On peut recommencer depuis le début ou non ? Dit Jelin.
Non, mais c'est parfait. C'est parfait.
Et c'est le jumeau littéraire de votre père. Ouais. Et quand on dit jumeau, c'est vraiment qu'il y a très, très peu de différence.
Jumeau, c'est que quand on décide de prendre une histoire vraie, une histoire qui est arrivée, et qu'on décide de la raconter, on a le choix entre deux options. Soit on fait un récit, et là, d'une certaine manière, on se piège un peu soi-même, puisque on ne peut raconter que ce qui a été constatable et prouvé, et dont une grande partie est malheureusement perdue dans les souvenirs, dans la mémoire, dans les méandres de la sélection de ce qui reste en mémoire et ce qui n'y reste pas. Ou alors on se dit bien, j'ai les éléments de l'histoire comme j'aurais les éléments d'une fiction, sauf que c'est une chose qui s'est vraiment passée, et je le prends comme matériel romanesque. Avouez que là, je suis en train de rattraper le titre de la conférence. Hein. Voilà. Donc le romanesque, pour en faire une fiction, pour en faire un roman, mais je suis d'accord avec mon collègue Jorge Semprún. J'en profite qu'il est mort pour dire que c'est mon collègue.
Alors pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, c'est Jorge Semprún. Oui,
Jorge Semprún, qui disait que seule la fiction permet de dire la vérité. Je suis assez d'accord avec ça, parce que d'une certaine manière, la vérité, le respect des faits tels qu'ils se sont passés, vous enferme dans cette histoire particulière et empêche de donner de l'ampleur et de l'universalité à ce qu'on a décidé de raconter. Donc, la fiction, c'est la liberté de la narration et c'est la liberté qui est le sentiment le plus enivrant qu'on peut avoir quand on écrit, parce que l'écriture est quand même un travail, un vrai travail, un artisanat. 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Ça, c'est mon collègue Picasso qui le disait. Et donc, encore en espagnol, c'était surpeuplé. Et donc, se mettre à ce travail-là, quand on écrit un roman, le roman est certainement la forme d'expression artistique la plus libre. Elle n'a besoin que d'une feuille, un crayon et ce qu'on a dans la tête. On n'a pas de couleur, on n'a pas de caméra, on n'a pas d'appareil photo. On a juste les mots. Et donc, c'est le côté le plus joyeux du travail. Donc, écrire un roman, même à partir d'une vérité, permet de transcender l'histoire et d'en faire quelque chose dont on espère, évidemment, en l'écrivant, qu'elle va toucher les lecteurs.
Sauf que sur ce coup-là, vous aviez un peu plus qu'une feuille et un crayon, puisqu'il y avait les notes de votre père et le dictaphone.
Les notes de mon père.
Vous avez beaucoup parlé avec votre père.
Beaucoup parlé avec mon père, vraiment. Ma mère est morte il y a 5 ans, mon père il y a 6 ans, mon père il y a 1 an. Et cette période qui a séparé la mort de ma mère et celle de mon père, je me suis occupée de lui vraiment. Et on a travaillé ensemble, on a travaillé là-dessus.
Comment vous en êtes venu à sortir le dictaphone et à lui dire « raconte-moi », etc. J'ai une petite idée. Hein.
J'ai pas fait vraiment... Pourquoi ?
Parce qu'il y a une phrase dans le roman qui dit à peu près pourquoi. Votre père dit, quand je serai plus là, qui se souviendra d'eux ? Et je pense que c'est le déclencheur.
Bien sûr. Je pense que fondamentalement, oui, il n'avait pas envie de voir l'histoire ensevelie dans le néant.
Il était la mémoire de ses camarades disparus.
Oui, bien sûr, et la mémoire de la République, et enfin à son échelle à lui. Et il avait envie de laisser une trace, autrement il n'aurait pas pris des notes qui précèdent de très 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 nombreuses années la simple émergence du livre. Il y a eu aussi sa parole dans le dictaphone, il y a eu aussi les notes que j'ai prises moi en écrivant, il y a eu aussi ses silences qui parfois en disent long, il y a eu tout ce qu'on... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de parler avec des personnes âgées, voire très âgées. Et c'est toujours d'abord passionnant, bien évidemment. Et c'est toujours aussi riche de ce que ça ne dit pas que de ce que ça dit. C'est aussi riche de ce que ça a peur de dire ou d'exprimer que de ce que ça exprime. Et donc, voilà, j'ai compris à certains silences que là, il y avait quelque chose à creuser, à chercher, pas en lui posant davantage la question. Ce n'était pas non plus de la torture. C'était juste en me disant, ben là, il va falloir creuser la tête, ma fille, pour trouver des ressorts et des explications. Quoi.
Et si j'ai bien lu les remerciements, votre père avait d'abord une excellente mémoire.
Incroyable mémoire.
Il avait pris des notes très précises. Oui. Et il vous a donné des références également d'une grande précision.
Oui, je peux raconter une anecdote à ce sujet. C'est que mon père me raconte qu'en 1938, avant de s'engager dans l'armée, il a alors pas tout à fait 15 ans. Et il est en Catalogne, dans un petit village très joli qui s'appelle Morella. Et il me dit, et ce soir-là, il y a eu une aurore boréale. Là, je me dis, papa, arrête de boire. On travaille sérieusement. Là. J'ai eu une aurore boréale en 1938 en Catalogne. Ben voyons. Je vais quand même sur Google, histoire de dire. Et je fais 1938, Espagne, Catalogne, aurore boréale. Bingo, en 1938, il y a eu une aurore boréale visible jusqu'en Andalousie et elle était rouge. Non mais, j'ai pas inventé, hein. J'ai l'air comme ça d'avoir une imagination débordante, pas du tout. Et là, je me suis dit, il faut pas que je mette en doute ce qu'il me dit. Quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il en est sûr. Autrement, il ne le dit pas. Et donc, à partir de ce moment-là aussi, ça a beaucoup donné une autre dimension à ce qu'on faisait, parce qu'il me donnait des dates, par exemple, sur des choses improbables, et j'allais vérifier, oui, c'est ça. Et le titre d'un journal, enfin, tout ce qui reste comme ça dans la mémoire des hypermnésiques, qui sont des gens incroyables, tout de même. Et souvent, il y a beaucoup d'hypermnésiques dans les milieux exilés. Les gens se raccrochent à ce qu'ils ont emporté de chez eux, c'est-à-dire dans le cas de mes parents, par exemple, leur mémoire, leurs mots et tout ça, parce qu'ils ont passé la frontière avec rien, rien de rien. Et donc voilà. Donc je me suis dit, bon, maintenant, il faut lui faire confiance. Quand il te dit un truc, c'est que c'est ça qui s'est passé. Voilà. Et puis voilà. Donc ça a été des moments, c'est vrai qu'entre un père et une fille, c'est des moments assez privilégiés, quoi. Après. À passer comme ça, à camper dans l'enfance de son père. Il est allé jusqu'à me raconter des choses que j'aurais jamais cru que mon père pouvait raconter, puisque c'est une génération très pudique. C'est un milieu, alors en plus, les gens de gauche, comme ça, un peu l'idéal, le machin, le truc, c'est pas forcément des, comment dirais-je, des comiques troupiers, vous voyez, c'est pas... Et il m'a quand même raconté comment ses copains l'ont emmené au bordel quand il avait 15 ans.
Comment il s'est fait déniaiser, carrément.
Et comment il s'est fait déniaiser.
Il a dû s'y reprendre à deux fois.
Ça aussi, ça pourrait sembler une histoire, une scène de comédie, mais pas du tout. Ses copains se cotisent pour lui payer un petit tour au bordel, parce qu'évidemment, l'armée républicaine espagnole, toute pleine d'idéal qu'elle soit, c'est quand même une armée avec des hommes jeunes. Et n'est-ce pas, voilà, il y a un bordel qui suit. Il y a même un bordel installé dans un des villages.
Il est plus que jeune, il est entre 15 et 16 ans.
Oui. Et donc ses copains, lui, il dit, mais moi, j'ai pas d'argent. De toute façon, il voit bien qu'ils partent tous de temps en temps en goguette. Il le laisse là. Au début, il lui dit, non, t'es trop jeune et tout. Et puis quand même, il voit que le gamin, il y va, quoi. Il fait ce qu'il a à faire, il participe et tout. Donc un jour, ils disent, allez, on y va. Non, d'abord, la première cuite. Hein. Il a d'abord droit à une cuite. Bon, très bien, il est malade 3 jours, parfait. Et puis après, donc, au bordel, il négocie le truc. Et là, il voit il a pas 16 ans, il a 15 ans et quelques. Et il voit arriver vers lui une dame, comment dire, beaucoup trop abondante pour lui, avec vraiment les lèvres très très peintes en rouge, avec vous savez, nous sommes dans les années 30, une petite boucle comme ça collée sur le front et avec un peignoir comme ça un petit peu qui a vécu des, et elle arrive vers lui avec des seins très impressionnants et
elle
dit,
est très loin de ses 15 ans elle.
Et elle est loin de ses 15 ans. Il dit, j'ai l'impression qu'elle pourrait être la mère de la mienne. Enfin voilà. Et donc elle avance vers lui en lui disant, a mí me gustan los soldaditos. J'aime les petits soldats. Donc là, il s'est dit, pies para que os quiero, pieds, j'ai besoin de vous. Et il a littéralement détalé, conscient qu'ils allaient se foutre de lui pendant des semaines et des semaines, ce qui n'a pas manqué. Mais quand même, là, il a... Et donc, il y a eu une nouvelle tentative quelques temps plus tard avec une fille, malheureusement, une fille très jeune, une fille, on imagine, on ne veut même pas imaginer le parcours de cette fille pour se retrouver dans un bordel militaire de campagne pendant la guerre d'Espagne. Mais c'est celle qui lui fait connaître, qui fait de lui un homme et qui, pendant toute l'action, mange des amandes. Oui. En attendant qu'il ait fini. Et il me dit, elle a mangé pendant tout le temps. J'ai terminé mon affaire, je me suis rhabillée, je suis partie, elle ne m'a même pas offert une amande.
Alors, avant qu'il
Donc, comment voulez-vous que j'ai besoin d'imagination? Ben oui. J'aurais pas pu l'inventer, celle-là.
Alors, avant qu'on en arrive là et à cet épisode truculent, vous racontez dans le début du roman l'enfance de Khéline. Entre une mère douce, pas très patiente.
Oh, on va dire, pour décrire ce personnage de Néna, je l'ai appelée Néna parce que j'ai retrouvé une photo de mon grand-père très jeune, signée « Pour toi, ma Néna ». Néna, c'est petite fille. « Pour toi, ma Néna », en guise d'amour éternel, machin, signé par mon grand-père. Alors ça, c'est vraiment une photo où il a l'air d'un petit étudiant. Il était blond, mon grand-père. Enfin, bref. Et donc, j'ai appelé le personnage Néna. Et cette Néna, si elle était née, non pas en 1901, mais 50 ans plus tard, n'aurait probablement pas eu d'enfant. Ouais. Mais ce n'est pas une époque où les femmes choisissent d'avoir ou pas avoir des enfants. Donc, elle a des enfants. Bon, d'accord, elle les aime bien. Ce n'est pas qu'elle ne les aime pas. Mais enfin, ce n'est pas non plus pour aller jusqu'à... Enfin, ce n'est pas du tout la maman espagnole, comme on l'imagine, mange ta soupe, etc. Non.
Pour elle, l'école, ce n'est pas forcément une bonne chose.
Elle a bénéficié d'une éducation particulièrement progressiste et futuriste. Elle trouve qu'il n'y a pas d'école aussi avancée que celle dont elle-même a bénéficié et qui, à ce moment-là, à Madrid, il n'y en a pas. Et donc, elle décide que ses enfants vont s'éduquer tout seuls en farfouillant dans la bibliothèque familiale. Voilà ce qu'ils font.
Et le père de Khéline, il a alors lui une conscience politique très aiguisée. Il s'intéresse aux affaires du monde. Il lit les journaux. Oui. Et Khéline développe vraiment des convictions socialistes, républicaines, presque libertaires parfois.
Oui. Libertaire, non, mais libertaire, je vois ce que vous voulez dire.
Il est un peu tenté parfois.
Il est juste, ça n'est pas du tout quelqu'un qui est mu par la compassion vis-à-vis du malheur des gens, mais simplement par le sens de la justice. Et en fait, il en veut aux pauvres d'être aussi passifs. Lui, il pense que les pauvres sont passifs, qu'ils sont tellement nombreux que s'ils se mettaient tous d'accord, ça leur prendrait 3 jours de renverser l'ordre établi et d'imposer leurs droits. Et évidemment qu'il a raison, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est fondamentalement un démocrate, un homme progressiste, très moderne. Aujourd'hui, il sera encore moderne. Et qui est un peu un type assez détendu. Il monte des boîtes, il les coule, il les remonte. Il gagne très bien sa vie, mais sans un peu un touche-à-tout, comme ça, un peu bohème. Et donc, ils mènent chacun leur vie d'une manière assez libre, qui ne correspond en rien à l'image qu'on peut avoir d'une famille traditionnelle espagnole, catholique. Et tout d'abord, ils ne sont pas catholiques, ils sont mariés civilement. Les parents de Néna sont déjà mariés civilement à la fin du 19e siècle. Bon, ça fait partie de l'Espagne anéantie par le franquisme, mais qui était très, très vivace dans les années 30 et qui donc a permis l'avènement de la Deuxième République espagnole.
En 1931, la République vient d'être proclamée, la première. La deuxième, Khéline et ses parents descendent dans la rue pour vivre les événements. Et ça, j'aimerais savoir comment votre père vous a raconté ça, parce que je trouve qu'on a l'impression que vous y étiez. Quoi. C'est aussi simple que ça.
14 avril 1931.
Vous êtes bien conservé, hein.
Oui, hein. 14 avril 1931, La République est proclamée, ils sont à Madrid, c'est là que la République est proclamée. Ils habitent pas très loin de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, si vous en avez entendu parler, c'est là qu'ont eu lieu